archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la deuxième partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Les services de l'africanisation des cadres, créés en janvier de cette année, a eu pour première tâche la création de l'école togolaise d'administration, ouverte le 16 mars et destinée à la formation de ces personnels.
Pionnier de la lutte pour l'indépendance des territoires africains, Sylvanus Olympio est certainement l'une des figures marquantes du nationalisme des années 50 et 60. L'un des premiers à réclamer très ouvertement l'accession de son pays, le Togo, à la souveraineté internationale. Et malgré l'opposition des autorités françaises qui, à la fin de la décennie 50, essaient de le neutraliser en le rendant inéligible pour une durée de 5 ans, cet ancien prisonnier de guerre, enfermé au Dahomey pour son opposition au régime de Vichy, va parvenir en 1956 à saisir les Nations Unies afin qu'elles invitent la France à réorganiser les élections dans son pays. Un scrutin qu'il va remporter haut la main grâce à la popularité acquise auprès des siens qui se sentent particulièrement proches de lui et de son combat. Il faut dire qu'il communique beaucoup, qu'il aime parler à son peuple, qu'il utilise au maximum la radio.
Vous savez, on peut dire beaucoup de choses sur la radiodiffusion, mais il y a une chose quand même qu'il ne faut jamais oublier. La radiodiffusion permet de diffuser actuellement en Afrique des nouvelles, et non seulement des nouvelles, des notions d'enseignement pratique dans les différentes parties de notre territoire, ce qu'on n'a pas pu faire dans les passés. Alors donc, la radiodiffusion n'est pas seulement pour donner des nouvelles ou amuser, et n'est-ce pas, la population. Ça devient maintenant une aide très importante dans les diffusions des notions pratiques d'hygiène, notions pratiques dans les d'autres domaines. Et je peux vous dire qu'en ce qui concerne cet département, cette section, et ça nous a apporté beaucoup d'aide à l'administration au Togo. Je souhaite personnellement une plus grande extension à la radiodiffusion, surtout en Afrique où il y a encore beaucoup à faire. Et je souhaite surtout pour la Sorafom qui s'est donné beaucoup de peine en cherchant, n'est-ce pas, plusieurs moyens d'intensifier, n'est-ce pas, la radiodiffusion en Afrique. Et je suis très heureux d'avoir cette occasion de venir voir l'exposition et qui vraiment donne l'idée des techniques tout à fait modernes qu'on adopte et encore voir en même temps et l'avenir qu'on réserve pour la radiodiffusion en Afrique.
Cette année 1958 va être décisive pour Sylvanus Olympio, puisqu'après son succès au scrutin d'avril 1958, il va être nommé dès le 16 mai Premier ministre du Togo, inaugurant ainsi l'alternance politique sur ce territoire. La même année, après le référendum sur la communauté que propose le général de Gaulle aux territoires africains qui lui sont associés, il peut se rendre à Paris pour resserrer les liens avec le président du gouvernement français qui n'avait pas particulièrement apprécié sa demande d'indépendance immédiate. En novembre de la même année 1958, il est à New York pour demander la levée de tutelle de la France sur le Togo.
Ici Paris, radiodiffusion de la France d'outre-mer. Au micro, William Siad qui vous parle de l'aérogare d'Orly où, à 2h30 minutes d'intervalle avec l'avion New York-Mexico-Paris par lequel arrivait M. Ahidjo, Premier ministre du Cameroun, le vol numéro 40 amenait de New York le Premier ministre du Togo, M. Sylvanus Olympio. Il y a un mois, Monsieur le Président, vous déclariez devant ce même micro que vous devez vous rendre très bientôt à l'ONU pour demander la levée de tutelle. Le gouvernement de Paris étant en parfait accord avec votre gouvernement, pouvez-vous nous dire quel est le résultat de vos démarches?
C'est exact. La discussion qui a eu lieu à l'Assemblée générale de l'ONU était surtout au sujet de la levée tutelle. Mais en même temps, c'était conditionné que l'indépendance du Togo sera proclamée en même temps. Et la résolution qui a été finalement adoptée par l'Assemblée générale disait ceci, en effet, que les jours que l'indépendance du Togo sera déclarée, l'accord de tutelle signé entre la France et l'Assemblée générale en 1946 cessera d'avoir effet. Voilà exactement l'essence de la première résolution qui a été votée par l'Assemblée générale, je dois ajouter, à l'unanimité. Il y a même une deuxième résolution qui a été aussi votée et qui concerne surtout l'assistance technique au Togo. En effet, notre chambre législative a émis un vœu demandant les gouvernements français de bien vouloir insister auprès de l'Assemblée générale que l'assistance technique qui normalement est donnée aux pays sous-développés soit aussi donnée au Togo. Et en général, cette proposition a été reçue avec beaucoup de sympathie par l'Assemblée générale.
Les relations normalisées avec Paris vont permettre un passage de témoin en douceur. Sylvanus Olympio prépare avec minutie l'accession du Togo à la souveraineté internationale, avec la signature de plusieurs textes, notamment les accords de Lomé. Le 27 avril 1960, comme promis, le Togo accède à l'indépendance internationale. Occasion pour Sylvanus Olympio de crier la victoire du nationalisme.
Ici Lomé, capitale de la République du Togo. Lorsque les autorités arrivèrent pour s'incliner devant les drapeaux, l'hymne togolais retentit. Cet hymne que vous entendez s'appelle la Togolaise, il est joué par la fanfare de la garde togolaise. Les drapeaux flottent, ce drapeau français, le drapeau togolais, ce drapeau. Il est vert avec deux étoiles jaunes et cousu dans le coin près de la rampe un petit drapeau français à la manière des États du Commonwealth. Milieu de discours. L'histoire, les accords de l'ONU. Je suis sur place, dans votre capitale, au musée des populations togolaises. Il y eut aussi un défilé. Avec les noms de celles-ci sur des pancartes, l'école Nicolas Troué, suivant l'inévitable pensionnat Saint-Joseph. Ceci n'appartient également qu'à la petite histoire. L'histoire, elle, se continuait à l'Assemblée législative où avait lieu, après une séance extraordinaire, la signature des accords. Aussitôt après, le Premier ministre du Togo, M. Gonilski, voulait bien adresser spécialement quelques mots au micro de Paris vous parle.
Je suis très heureux de pouvoir de l'ONU m'adresser aux Français en France. Cette journée du 25 février est pour le Togo une journée historique. D'abord, le ministre de la France d'Outre-mer, M. Jackson, nous apporte le nouveau statut du Togo. Et avec ce statut, la convention que nous venons de signer ici à l'ONU et qui nous permettront de la mise en application immédiate de pouvoir transférer. Ici l'ONU à vous Paris.
Après cette émouvante déclaration d'indépendance, le Togo peut enfin prendre en main son destin. Et comme pour la plupart des pays francophones d'Afrique, le Premier ministre va automatiquement devenir le président de la République. C'est ainsi que Sylvanus Olympio devient le premier président du Togo. Mais il n'oublie pas pour autant totalement son idée, son rêve d'unification avec le Ghana voisin. La question des Ewé, qui sont des deux côtés de la frontière, continue de le perturber. Il a du mal à l'accepter, ce qui ne va pas contribuer à améliorer ses relations avec le président Kwame Nkrumah du Ghana. Voici ce qu'en disait l'historien attouché à Bobli.
N'oubliez pas qu'en 1956, il y a eu au Togo britannique un référendum au cours duquel le peuple de cette portion de l'ancien Togoland allemand a accepté de se faire annexer à la Gold Coast pour constituer le Ghana du docteur Kwame Nkrumah. Et le docteur Kwame Nkrumah a toujours pensé que Sylvanus Olympio, qui a défendu l'idéologie pan-évée Ensuite, l'unification des deux Togo était un obstacle à sa volonté d'intégrer l'ensemble du Togo dans un espace géopolitique cohérent. D'un autre côté, Sivanus Olympio était plus porté vers les anglo-saxons, vers les allemands. Il voulait fonder l'indépendance du Togo sur un éloignement de la France en s'appuyant sur les anglo-saxons, particulièrement les Américains et les Britanniques, et en même temps sur l'Allemagne. Vous voyez donc qu'en 1963, déjà, le Togo posait un problème à la France.
Quoi qu'il en soit, Sylvanus Olympio doit se résoudre à accepter, au moins pour l'instant, cette division. Son désir d'ouvrir son pays, de multiplier ses partenaires, de se rapprocher des autres grandes puissances, passe par la reconnaissance du Togo par les Nations Unies.
Il ne manque plus au Togo que la consécration de sa vocation internationale. Cette consécration, vous venez de la lui accorder en l'admettant au sein de l'Organisation des Nations Unies. Le Togo a conscience de tout ce qu'il doit, aussi bien à la Société des Nations qu'à l'Organisation des Nations Unies. Il sait que l'une et l'autre de ces organisations ont acquis des droits à sa profonde reconnaissance. Mais le Togo sait aussi ce qu'il doit à la puissance administrante, la France, et je faillirais à mon devoir si en cette circonstance je ne lui adressais pas l'hommage auquel elle peut légitimement prétendre. Certes, le Togo est un petit pays. Sa superficie de 53 000 km², sa population de 1 200 000 habitants semble bien modeste à l'échelle des grands de ce monde. Ce ne sera cependant ni le plus petit, ni le moins peuplé des États membres de l'Organisation des Nations Unies, en croire l'honorable délégué des États-Unis, M. Cabot Lodge, qui nous apprenait au Conseil de sécurité que 25 États indépendants et souverains ici, représentés, avaient un territoire plus exigu et que 15 États avaient une population moins importante. Mais ces considérations importent peu, car une petite nation peut avoir assez de sagesse et apporter au maintien de la paix et de la concorde une contribution très efficace et hors de toute proportion. Lorsque le Togo a sollicité le 20 mai 1960 son admission au sein de l'Organisation des Nations Unies, il a pris l'engagement de se conformer à la charte de San Francisco. Cet engagement, vous pouvez être assuré, Monsieur le Président, que le Togo le tiendra, car il est trop conscient de la nécessité qui s'impose à tous les États de respecter rigoureusement les principes de la Charte.
Une fois installé à la tête de l'État, Sylvanus Olympio va se révéler volontariste et même dictatorial dans son désir de doter le Togo, pays dépourvu de ressources naturelles, d'une économie performante. Dans une première étape, il se rapproche de l'Europe, facilite les investissements allemands, l'ancienne métropole dont il admire la rigueur et le pragmatisme. Il va d'ailleurs se rendre en République fédérale d'Allemagne pour conclure des accords commerciaux en juin 1961.
Finalement, nous sommes mis d'accord de telle sorte que le gouvernement allemand même peut donner une garantie directement aux Allemands qui veulent investir au Togo. Et de notre côté, nous donnons aussi une garantie au gouvernement allemand.
Sylvanus Olympio ne s'impose pas de frontières pour la recherche des partenariats pour développer son économie. Il n'hésite pas à rechercher des relations commerciales, même avec les Soviétiques, en pleine guerre froide. Il ira également en Asie où il a des amis. Gilles Chris Olympio, son fils, raconte.
Il avait beaucoup d'amis en Afrique et aussi en Asie. Et Nehru était son ami, ainsi que Gandhi, ainsi que les autres. Il était plutôt tourné vers l'indépendance des pays africains qui seraient liés à la France par des liens culturels, économiques et sociaux. Mais il ne voyait pas un pays, petit comme on l'était, et d'être dans un ensemble francophone. mais dans un ensemble international.
Paradoxalement, ce personnage qui multiplie les relations avec de nombreuses jeunes nations africaines rencontre du côté du Ghana voisin les obstacles les plus inattendus. Le président Kwame Nkrumah ne cache pas que l'unification des Ewe ne peut se faire que sous son contrôle. Il menace et prend à l'égard du Togo des mesures brutales qui mettent une barrière entre les frères de la même tribu. La politique de l'Empio ne va pas pour autant changer. Il doit maintenant faire face à de rudes problèmes dont il n'envisage la solution qu'au sein d'une vaste communauté africaine.
Tu vis la situation géographique du Togo. La relation que nous sommes obligés d'avoir avec le Ghana doit être une relation plus amicale. Parce que la population du Togo français ainsi que la population qui se trouve à Ghana, notre voisin, essentiellement la même. Et si vous voulez bien revoir cette question de notre point de vue, l'histoire même de notre peuple, c'est l'histoire d'un seul peuple. Il n'y a que les Européens qui ont fait cette frontière artificielle entre les Ghana et les Togo français. Et une fois que nous avons notre indépendance, et étant donné que le Ghana est aussi indépendant, nous avons 18 ans entre hommes qui peuvent discuter amicalement la relation qui doit exister entre les deux pays.
Le multilinguisme de Sylvanus Olympio, ajouté à son expérience et sa diplomatie, vont rapidement faire de lui l'interprète idéal entre l'Afrique anglaise et française. Pour donner un exemple de panafricanisme, il ouvre des négociations tendant à l'établissement d'un marché commun à l'échelon local entre le Togo, le Dahomey et le Nigeria. Nous sommes à Lagos, capitale à cette époque du Nigeria.
Your Excellency, ladies and gentlemen.
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, j'étais ici, jeune homme, il y a 35 ans, à un moment où ce pays était encore sous la domination des maîtres européens. J'y suis retourné une seconde fois en 1944 pour voir ces dirigeants d'alors en difficulté. Aujourd'hui, en 1962, je suis venu voir mon cher ami, le gouverneur général Dick, ayant en main les destinées de ce pays. Vous pouvez donc imaginer ma joie en cette occasion. Vous savez tous que je suis venu à Lagos pour participer aux travaux de la conférence organisée pour l'unité des États africains. À Monrovia, nous avions déchiffré le terrain. À Lagos, nous avons commencé à poser la fondation, puisque c'est d'elle que dépend la solidité d'une maison. Et nous sommes sûrs d'avoir posé une fondation solide grâce au gouvernement du Nigeria. Je pense que nous pouvons dès maintenant envisager une union régionale africaine entre le Togo, le Dahomey et le Nigeria. Cette union permettra à nous autres qui venons de Lomé d'éviter les nombreuses barrières douanières avec des passeports et autres pièces et les formalités aux nombreuses ambassades avant d'avoir fait 300 kilomètres.
Si sur le plan international, Sylvanus Olympio rayonne, s'il est une référence en matière de diplomatie et de panafricanisme, sur le plan national, il rencontre de réelles difficultés. Il doit faire face d'abord à une opposition interne qui estime qu'il ne l'écoute plus, mais également à une partie des soldats démobilisés de l'armée française qu'il ne souhaite absolument pas intégrer dans celle du Togo. Des démobilisés parmi lesquels se trouve un certain Étienne Yadima. Les mois qui vont suivre risquent d'être particulièrement chauds au Togo. L'entêtement du président Sylvanus Olympio face à ces différents éléments annonce un avenir orageux. Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. La mise en onde de ce magazine était assurée par Pascal Bongo. Delphine Michaud, Fong Nguyen et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.